Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Mélomanie pour ce nouveau numéro de votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Nous sortons d'une semaine d'intense activité sur le front des événements musicaux qui s'est terminée dimanche après-midi par la dernière de La Femme sans ombre à l'Opéra National du Capitole. Une production de très haute tenue que nous avions saluée lors de notre précédente émission. Et si vous l'avez écoutée, vous vous rappelez sans doute que nous vous avions annoncé et présenté une kyrielle de concerts et récitals à venir avec des affiches particulièrement alléchantes. Ils ont eu lieu depuis, nous allons donc pouvoir revenir dessus avec mes deux fidèles complices, les mêmes que la semaine dernière, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. C'est parti pour un très copieux, très consistant et très varié retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue aussi à tous les deux. Merci d'être encore au rendez-vous de Mélomanie. Nous allons entamer ce retour arrière par le concert du duo Mélis, donné à Saint-Pierre-des-Cuisines il y a 10 jours, à l'invitation de la saison Toulouse Guitare. La salle était quasi pleine pour écouter ce couple de guitaristes, l'Espagnol Susana Prieto et le Grec Alexis Mouzourakis. On sait depuis le peintre Le Greco que lorsque l'Espagne et la Grèce se rencontrent, ça donne de très belles choses. On a vraiment assisté à un concert remarquable, mais avant le duo Mélis, on a eu droit, comme d'habitude, à une première partie avec un tout jeune musicien qui s'appelle Matteo Vidal, Serge.
Oui, en effet. Et puis, il faut préciser que le concert était présenté par Thibaut Garcia, qui se trouve être à Toulouse en ce moment. Donc, c'est très bien, puisqu'il voyage beaucoup. Effectivement, Matteo Vidal est un jeune élève qui suit l'enseignement de Benoît Albert en deuxième année du cycle préparatoire de l'enseignement supérieur. Et vraiment, il a présenté un programme consistant, hein, avec quand même des œuvres de Dolande, de Munera, des œuvres que l'on n'a pas vraiment l'habitude d'entendre dans les concerts, avec cette fantaisie d'après John Dolande, d'un compositeur qui s'appelle Ferrabosco, du XVIe siècle, donc, et puis du Federico Mompou, donc un grand compositeur catalan que l'on connaît bien quand même à Toulouse, avec des extraits de sa suite Compostelana, puis deux sonates brillantes de Domenico Cimarosa, qu'on n'entend pas très souvent à la guitare d'ailleurs, et puis le scherzo d'une sonate d'Alberto Rinastella, donc un beau programme pour ce jeune musicien qui vraiment se défend très bien. Hein.
Une belle entremetière.
Oui, oui, absolument. Et puis est arrivé le duo Mélis. C'est vraiment un duo très célèbre, hein, qui donne des concerts dans le monde entier. Et il a ouvert son concert, sa partie, donc avec une pièce originalement écrite pour deux guitares de Joaquín Rodrigo, qui s'appelle Tonadilla, une pièce assez célèbre. Et là, on a été, non pas surpris, mais impressionné par la complicité fusionnelle qu'il y a entre les deux. On a l'impression d'un seul instrument qui joue avec vraiment une finesse, un sens des nuances très intéressant. Ensuite, il y a eu deux pièces composées pour le clavecin et donc que eux-mêmes ont transcrites, qui est une pièce de Joseph-Nicolas Pancras Royer, avec beaucoup d'éloquence, une pièce qui s'appelle L'aimable, et puis la seconde qui s'appelle Vertigo, et on comprend en l'écoutant pourquoi elle s'appelle
le
Vertigo.
Côté vertigineux.
C'est d'une virtuosité incroyable. Donc, très beau duo aussi. Et puis, une partition encore originale pour deux guitares, le duo opus 31 numéro 2 du compositeur et guitariste français Antoine Deloyer, un grand guitariste qui est mort en 1840. Donc,
oui, qui est à cheval sur la fin de la période dite
voilà,
classique et le début du romantique.
18e, 19e, voilà. Oui, voilà. Donc avec une sorte de classicisme de l'écriture et de très beaux moments raffinés, avec notamment un adagio cantabile qui s'écoute un peu comme un chant, comme on a l'impression d'une voix qui chante. Et puis, la pièce qui suit était une véritable curiosité, puisqu'il s'agissait d'une transcription de l'une des saisons de Tchaïkovski. Le recueil des 12 pièces intitulées Les Saisons, en fait c'est une par mois.
Ce sont des mois, oui.
Voilà. Le duo de guitare a transcrit ces saisons de Tchaïkovski. A priori, on pouvait se dire c'est très bizarre, parce qu'une pièce romantique pour piano, pour deux guitares, eh bien c'est magnifique, on a l'impression que ça a été écrit pour la guitare.
C'était très très beau, c'était le mois de juin. Bon, lorsqu'il y a une des saisons de Tchaïkovski qui jouait, c'est souvent le mois de juin.
C'est celle-là, oui, c'est toujours la même, effectivement. Mais elle s'adapte très bien à la transcription pour guitare. Et puis ensuite, on a eu droit à trois danses argentines composées par Alberto Evaristo Ginastera, bon, grand compositeur argentin. Et donc là aussi, on avait l'impression que l'œuvre était conçue pour les deux guitares. Et alors avec la danse del viejo, boyero, puis celle de la danse del gaucho, matrero, en passant par la très douce et très belle Danza de la Moza Donosa. Beau triptyque là, un beau succès de ces deux musiciens qui ont été rappelés à plusieurs reprises et qui ont fini par donner un bis. Là aussi une transcription de la pièce pour clavecin de Jean-Philippe Rameau, Tendre plainte, pièce aussi
magnifique,
magistrale, très belle. Et donc c'est par cette pièce que s'est terminée cette belle soirée de guitare qui était la première de Toulouse Guitare pour l'année 2024.
Alors vous aurez remarqué que ce duo qui forme, selon l'expression consacrée, un couple à la scène et à la ville, est tout particulièrement porté sur la musique baroque française.
Ah, absolument.
Comme beaucoup de guitaristes, Thibaut Garcia est un passionné aussi de la musique baroque.
Exactement.
Et ça s'y prête très bien, effectivement. Les transcriptions absolument. À la guitare,
ça fonctionne
merveilleusement bien.
D'autant plus que ces transcriptions faites par eux-mêmes sont de très belles qualités. Très raffinées, très belles.
Voilà un duo qui, je crois, maintenant existe depuis plus d'un quart de siècle.
Qui
s'est formé juste avant l'an 2000. Et donc, au programme du concert du duo Mélis, il y avait trois pièces d'Antoine de Loyer, dont le Rondo Allegretto du duo numéro 2, opus 31, que je vous propose d'écouter maintenant. Le Rondo Allegretto du duo numéro 2, opus 31 d'Antoine Deloyer, interprété par le duo Mélis, une des pièces qui était au menu de leur concert du dimanche 28 janvier à Saint-Pierre-des-Cuisines, dans une salle qui était quasiment pleine une fois de plus. Le prochain concert de Toulouse Guitare est prévu le vendredi 15 mars à 20h à la salle du Sénéchal, avec une autre grande guitariste espagnole, Margarita Escarpa. Nous avions annoncé la semaine dernière, parallèlement aux représentations de La Femme sans ombre, deux récitals donnés à l'Opéra National du Capitole le même jour, le jeudi 1er février. Il y avait d'abord le midi du Capitole d'Alexis Isaïev et puis le soir, le récital de Marcello Alvarez. Nous allons commencer avec le tour de chant du baryton russe en milieu de journée. Il était accompagné au piano par Robert Gonella et nous aussi, nous avons notre Robert Pennavert, qui était dans la salle.
Oui, effectivement. Malheureusement, je n'ai pas le talent de Robert Gonella. Mais...
Vous en avez d'autres.
Ouais.
Pas tout avoir.
Je vais essayer de vous faire part de l'émotion que nous avons tous ressentie. Et quand je dis tous, la salle du Capitole était pleine. Il n'y avait plus un fauteuil, un billet à vendre. Plus un. et ça se voyait et ça s'entendait aux applaudissements. Donc on était ce 1er février 2024 et c'est un midi du Capitole, vous savez, cette série qui existe maintenant depuis de nombreuses années, c'est Nicolas Joël qui avait mis ça en route et qui consiste à inviter 9 fois sur 10 un artiste en représentation
voilà. Dans l'opéra, dans l'opéra qui passe
voilà, Capitole. Et lui ouvrir la scène du Capitole avec un orchestre pour un récital dont il choisit le programme, voilà tout simplement, pour pouvoir s'exprimer sur un autre répertoire.
Et il y a des tarifs défiant toute concurrence en
oui,
plus.
Oui, c'est 5 euros. Voilà.
5 euros. Hein.
Et il y a la billetterie qui est ouverte, mais elle est pleine en l'espace de 3 minutes, bien sûr, parce qu'à 5 euros, je vous assure que ce que nous avons entendu pour ce midi Capitole, et ce n'était pas la première fois,
c'est
un cadeau incroyable. Alors donc, effectivement, c'est le baryton russe Alexei Isaev qui chantait dans La Femme sans ombre le rôle relativement secondaire d'un des trois frères de Barak, en l'occurrence le Borgne, mais que nous avions découvert en octobre 2022, puisqu'il chantait un rôle autrement exposé, celui de Votnik dans Roussalka pour ouvrir la saison 22-23. Votnik étant le père de Roussalka. Déjà, nous avions entendu, découvert, pour ma part du moins, découvert une voix assez étonnante. Et aujourd'hui, ce qui nous a donné à entendre, parce qu'il est arrivé avec un récital d'opéra, non pas ce qui se passe les trois quarts du temps, vous savez, ils arrivent avec quelques mélodies accompagnées au piano ou à la guitare, et puis voilà. Non, là, Alexei Isaev est venu avec un récital d'opéra. Et pas n'importe quoi. Othello et la force du destin, excusez-moi du peu.
Oui.
Le Te Deum de la Tosca de Puccini, à l'écho de Sergei Rachmaninov, le Prince Igor d'Alexandre Brodine, le Démon d'Anton Rubinstein et la Dame de Pique
de Tchaïkovski.
Donc, pardon, mais c'est un midi assez copieux quand même. Ce n'est pas rien du tout. Alors, ce que nous découvrons aujourd'hui, c'est qu'en fait, à l'espace d'un an et demi, la voix a déjà changé. C'est un vrai baryton dramatique. Ce qu'on a beaucoup l'habitude d'entendre sur nos scènes, c'est ce que les Allemands appellent un cavalier baryton, c'est-à-dire le baryton qui est capable, certes, de faire Rodrigue dans le Don Carlo, mais aussi de chanter le Barbier de Séville, de chanter le frère de Marguerite dans le Fosse de Gounod. C'est les cavaliers barytones. Voilà, lui, non. C'est un baryton dramatique avec un aigu très coloré, sombre, avec des couleurs automnales. Et ça, c'est la preuve par A plus que c'est sa vraie couleur de voix. Parce que très souvent, les barytons, plus ils montent dans l'aigu, plus ça devient clair. Les harmoniques sombres disparaissent. Là, lui, non. Il monte avec des harmoniques très crépusculaires. Et ça, c'est la caractéristique d'un baryton dramatique. Alors, évidemment, le médium est colossal, le grave sonne comme de véritables coups de tonnerre. À mon sens, nous avons entendu peut-être demain un Nabucco, un Amonasro, plus qu'un Rodrigue de Don Carlo. Moi, j'ai entendu un Hollandais, j'ai entendu un Tel Hamund et peut-être dans quelques années un Wotan. Et donc, ça, c'est quand même un gros choc, une grosse émotion. Donc, après, évidemment, le public y a réclamé des bis et c'est le jeu dont le bis, il est revenu dans ce qui est un peu traditionnel, c'est-à-dire des mélodies populaires russes dont, évidemment, les fameux yeux noirs au Tchitchorniye, évidemment que le public
a réclamé sur l'air des lampions.
Dès qu'ils ont entendu Robert Gonella entamer le prélude musical de cet air, le public était ravi et l'a manifesté. Alors, pour en revenir à Robert Gonella,
oui,
tout de même, parce que c'était l'une des raisons pour lesquelles ce récital restera dans les mémoires, c'était le dernier midi du Capitole Robert Gonella.
Qui l'accompagnait.
Voilà. Il en a accompagné, j'ai fait le compte avec lui, à peu près 80. Voilà, imaginez-vous. Il y aurait de quoi écrire un livre. Parce que dans ces midis du Capitole, il y a des gens qui maintenant font des carrières colossales, comme Tamara Wilson, Samir Pirgu. Tamara Wilson, elle vient de chanter Turandomètre quand même. Voilà, simplement, petite remarque. Et donc, c'était son dernier midi du Capitole. Et il y avait dans le programme un morceau de piano solo qu'il avait souhaité jouer. Et c'était justement, vous en parliez tout à l'heure, un extrait des Saisons de Tchaïkovski. Et c'était aussi le mois de juin. Et là, il avait choisi la barcarolle du mois de juin. Et juste avant d'attaquer ce morceau, il s'est adressé au public en expliquant que c'était la dernière fois qu'il le voyait dans ce cadre-là. Imaginez-vous l'émotion de Robert Gonella, sa voix s'est un peu brisée, on le comprend. Et le public lui a fait une ovation, mais vraiment qui a dû aller droit au cœur de cet immense musicien. Parce que Robert Gonella est chef de chant au Théâtre du Capitole depuis un quart de siècle. Et c'est aussi un immense musicien. Il n'y a qu'à se souvenir ce qui s'est passé en octobre 2020, lorsque, au dernier moment, quasiment, l'orchestre, pour des raisons de Covid, n'a pas pu jouer sa prestation de Così fan tutte de Mozart. Et il s'est entendu avec la chef d'orchestre qui lui a dit « Bon, écoutez, moi je dirige le plateau et vous, vous faites la fosse à vous tout seul ». Et donc, à l'espace d'une demi-journée, il s'est mis tout cet opéra en tête. Il était le chef de chant de l'opéra quand même, mais oui, tout de même, Così fan tutte.
Oui, oui, oui.
Les récitatifs, etc.
C'est pas à la portée de n'importe quel
pianiste, c'est sûr. C'est pas à la portée de n'importe quel musicien, voilà. Donc, coup de chapeau à Robert Gonella.
Qui va continuer en tant que chef de chant au moins jusqu'à la fin de la saison.
Jusqu'à la fin de la saison, après je pense qu'il prend sa retraite.
Mais après, oui, s'il arrête les Midis du Capitole, c'est que...
Oui, c'est que je pense qu'il prend sa retraite.
Eh bien, coup de chapeau à Robert Gonella, et puis on va réécouter Alexis Isaev dans un extrait du programme de ce midi du Capitole. Vous parliez du Tédéum de la Tosca, donc Tre sbirri, una carrozza, air de Scarpia dans Tosca.
Tre sbirri, una carrozza, presto! Segui la dovunque vada, non hai visto propedi.
Sta bene, il convegno.
Palazzo Farnese. Nel tuo cuore s'annida Scarpia. Va, Tosca. E Scarpia che scioglia vola le falco della tua gelosia.
Alexis Isaev dans cette aire de Tosca, Tre sbirri, una carrozza, qui était au programme de son midi du Capitole jeudi 1er février, où il était donc accompagné par Robert Gonella, qui à cette occasion faisait ses adieux en tant qu'accompagnateur midi du Capitole. Mais il y avait une autre célébration.
Oui, il y avait une autre célébration, à notre grande surprise, au moment du salut final, nous avons vu arriver Christophe Gristy avec un bouquet de fleurs et son adjoint, son précieux adjoint Jules Biget, pardon, excusez-moi, qui est arrivé avec un gâteau et une bougie, parce que sur scène, donc, Alexis Isaev s'est vu fêter son 35e anniversaire. Et la salle d'entonner, évidemment, ce que vous imaginez, joyeux anniversaire.
En russe, évidemment.
Alors, pas tout le monde en russe.
Voilà donc, là, pour ce midi du Capitole, d'Alexis Isaev, accompagné par Robert Gonella. Et puis donc, le même jour, à l'Opéra National du Capitole, avait lieu à 20h, le récital du ténor argentin Marcello Alvarez, moment très attendu pour tous les admirateurs de ce grand chanteur qu'on a souvent entendu au Capitole à la fin des années 90 et au début des années 2000, admirateur dont vous faites partie Robert, et vous étiez bien sûr présent également à cette soirée.
Bien sûr, et comment nous ne serions pas admiratifs d'un artiste pareil? Alors en fait, pour la petite histoire, c'est encore une fois, pardon, mais je parle de Nicolas Joël, mais quand même, quand on parle de Toulouse, de l'histoire du Capitole, mais il est devenu, évidemment...
Il a marqué, évidemment, son empreinte.
Incontournable. En fait, Nicolas Joël l'a découvert en 1995 lors du concours de chant d'Istanbul, qui porte le nom d'une grande cantatrice turque, Leyla Genger. Et donc ça, c'était en 1995, et dès 1997, le mois de juin 1997, le 14 exactement, Marcelo Alvarez faisait son entrée sur la scène du Capitole dans Le Duc de Mantoue de Rigoletto. Un rôle qui chantait simplement pour la deuxième fois. Et bien, on connaît la suite. Dont Toulouse, évidemment, Nicolas Joël l'a bloqué pour les 5-6 ans à venir et dont il a fait faire des prises de rôle importantes. Lucia di Lammermoor. Quand on parle de cette Lucia di Lammermoor, pour les bienheureux qui ont eu la chance de l'entendre, et dont je fais partie, franchement, dans cette Lucia, il y a eu un moment de grâce. On entendait un doux medley entre le bel canto de Carlo Bergonzi, la vaillance de Domingo, enfin, etc. Ça a été un moment fabuleux. Ça ne s'est pas arrêté là, puisque dans les années qui ont suivi, il a pris le rôle de Werther, à Toulouse, de Desmorino dans l'Élixir d'amour, puis ensuite sa carrière évidemment l'a éloigné du Capitole et nous l'avons retrouvé qu'en 2007 pour Carmen. Mais franchement, c'est un personnage, hein. C'est pas qu'un chanteur, c'est un artiste. C'est un artiste et donc Christophe Gristy avait décidé de terminer une boucle de l'histoire de Marcelo Alvarez avec le Théâtre du Capitole et donc il y a offert ce récital et il y a dit ben voilà, vous venez, faites-vous plaisir, faites-nous plaisir, et donc encore une fois ce récital était un récital d'air d'opéra parce que Marcelo Alvarez a dit non, moi je ne vais pas venir à Toulouse avec des mélodies, non, c'est hors de question, le public toulousain je l'aime, le Théâtre du Capitole, et il nous l'a dit pendant la représentation, il nous l'a dit. Moi, je lui dois beaucoup à ce Théâtre du Capitole, à Nicolas Joël, et moi, je suis venu parce que s'il n'y avait pas eu le Capitole, peut-être que je n'aurais pas fait la carrière que j'ai faite. Et donc, moi, je suis venu vous offrir des airs d'opéra dans lesquels vous n'avez pas forcément applaudi parce que je ne les ai pas chantés, mais voilà, je vous offre mon cœur, je vous offre ma voix. Il était très touchant en définitive, une espèce de candeur, de naïveté, mais alors que, à l'évidence, il était mort de trac. C'est absolument incroyable. Ce chanteur qui a fréquenté le Métropolitain, la Vienne...
Sans doute parce qu'il était très ému de revenir à l'hôpital. Donc c'était pas chiqué ce qu'il a raconté.
Je pense.
C'était vraiment ce qu'il ressentait.
Est-ce que par hasard, dans sa tête, il se disait pas « Bon, c'est peut-être la dernière fois que je viens. » On peut l'imaginer aussi.
Oui, parce qu'il a quoi? Il a 60 ans, un peu plus?
Il a un peu plus de 60 ans. Voilà, pas beaucoup plus, mais il a un peu plus de 60 ans. Et donc, il est arrivé avec un programme d'opéra. Et encore une fois, pas n'importe lequel, il a ouvert avec le Cid de Jules Massenet, ensuite évidemment l'air de Don José de Carmen, quelque chose d'un peu plus rare mais qui convient parfaitement à sa voix aujourd'hui, le Giulietta e Romeo de Riccardo Zandona, qui est un air extrêmement vériste, mais qui chante avec beaucoup d'émotion, la Tosca de Puccini, le Lamento, puis ensuite c'est l'entracte, et ensuite il revient, mais là, moi je considère pour moi que c'est de l'opéra, ça avait des extraits de Zarzuela, et pas n'importe lequel, et la Maraviglia de Federico Loreno Toroba, la Tabernera del Pueblo de Pablo Sorozabal, et puis parce que comme il dit, il faut bien sacrifier à la tradition, deux airs napolitains, vous savez ces fameuses chansons napolitaine, le Non ti scordar di me et puis le Core ingrato. Voilà. Bon, ça faisait déjà un gros programme. Mais ça n'a pas suffi parce que le public est en délire, le public applaudissait debout. Et donc, il est revenu, et il est revenu accompagné d'un joueur de bandoneon. Alors, on s'est douté qu'il allait se passer quelque chose. Effectivement, nous avons eu une troisième partie. Alors qu'à l'évidence, il était fatigué.
Oui.
Vraiment, il était fatigué. Dès le début, on a vu tous les airs qu'il a chantés étaient séparés du suivant par un air joué par un accompagnateur précieux ô combien, Giulio Laguzzi, qui est un vrai partenaire aussi scénique et un immense musicien également. Et là, Marcelo Alvarez, avec le piano et le bandoneon, nous a amené dans son pays d'origine, l'Argentine, dans un barrio où il nous a chanté du tango et encore du tango.
Et il y a beaucoup d'amateurs de tango autour.
Oui, imaginez le public toulousain. Comme je disais, il est fou parce que s'il compte calmer le public avec ça, c'est impossible.
Il est élevé sur le feu.
Mais il souffle sur les braises, ce qui évidemment n'a pas manqué.
Le public était ravi, évidemment.
À un moment, il a dit non, écoutez, j'arrête parce que j'en peux plus. Je n'en peux plus. Voilà. Et effectivement, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'alors que le début du récital, personnellement, m'a fait un peu peur, parce qu'il cherchait sa respiration. Est-ce que c'était le trac, est-ce que c'était la fatigue, parce qu'il se mouchait beaucoup, il toussait beaucoup.
Peut-être qu'il était un peu malade aussi.
Il buvait beaucoup sur de l'eau, sur scène. Et même en deuxième partie, il buvait parfois au milieu des morceaux qu'il interprétait, mais il revenait toujours à la charge, C'était un moment incroyable. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'au fur et à mesure que la soirée se déroulait, la voix s'affermissait, le souffle devenait beaucoup moins problématique, les aigus étaient plus accrochés, c'était de mieux en mieux.
L'énergie lui a été transmise par le public.
Certainement, bien sûr. Voilà. Mais c'était un peu comme un phénix. Au fur et à mesure, le ténor renaissait dans ses grands jours. Et je peux vous dire que le public va s'en souvenir de ce récital.
Eh bien, après ce vibrant plaidoyer de Robert Pénavert, comment ne pas céder au plaisir de réentendre Marcello Alvarez dans Un désert qu'il a chanté jeudi dernier sur la scène du Capitole. On l'écoute ici dans le rôle de Don José dans Carmen. Il chante « La fleur que tu m'avais jetée ».
Oh,
La fleur que tu m'avais jetée, air de Don José dans Carmen, chanté par Marcello Alvarez, qui était au programme de son récital à l'Opéra National du Capitole jeudi dernier. C'était un grand moment pour tous les amateurs de bel canto, tous ceux Absolument. Qui aiment les belles voix
les,
de
les
ténor.
Les belles voix, les franches voix, les vrais artistes.
Alors quelle diction c'est,
Absolument. Ouais.
On en parlait, là, il y a des chanteurs français qui n'ont pas cette diction-là en chantant leur propre langue.
Tout à fait.
On ne donnera pas de nom. Le lendemain, vendredi 2 février, à l'Orchestre National du Capitole était de retour à la Halle aux Grains pour un concert dirigé par Nathalie Stutzmann, qui compte, à n'en pas douter, parmi les chefs français les plus connus aujourd'hui, hommes et femmes confondus. Et il me semble que c'était la première fois qu'on la voyait à la tête de notre ensemble symphonique, Serge.
Oui, elle était déjà venue à la tête de l'orchestre qu'elle avait fondé,
Orfeo 55, oui.
Mais jamais à la tête de l'Orchestre National du Capitole. Et vraiment, la synthèse s'est très bien passée. Il est évident que les musiciens ont beaucoup aimé sa direction et elle a adoré la prestation des musiciens. N'oublions pas qu'elle a quand même une notoriété importante. C'est une grande cantatrice. Ça a été une contralto magnifique avec un timbre phénoménal. Hein. Et donc là, elle a une carrière de chef d'orchestre importante puisqu'elle est notamment devenue directrice musicale de l'Orchestre symphonique d'Atlanta. C'est de même quelque chose. Et qu'elle a été invitée pendant le festival de Bayreuth de 2023 pour diriger Tannhäuser. Donc c'est quand même une réputation qui,
elle est très demandée.
Qui n'a plus à se faire.
Oui.
Donc, mais je ne me trompe pas, elle a déjà dirigé au Métropolitain. Hein
oui, absolument.
De l'opéra. Hein.
Oui, bien sûr. Elle est très
demandée. Elle est chef invité principal à l'Orchestre de Philadelphie. Hein,
Oui, l'invité, exactement. Elle était ici alors pour trois œuvres. Tout d'abord, la symphonie concertante pour violon, alto et orchestre de Mozart, puis la troisième symphonie de Brahms. Et de manière amusante, ça se terminait par une ouverture.
Oui.
L'ouverture de Tannhäuser, justement. Donc, petit clin d'œil à sa prestation récente à Bayreuth. Alors, la symphonie concertante pour violon, alto et orchestre de Mozart était jouée en soliste par deux jeunes musiciens magnifiques. La violoniste allemande Véronika Eberle et l'altiste français Adrien Lamarca, dont on connaît à Toulouse le frère.
Oui, Christian-Pierre.
Christian-Pierre Lamarca, qui est violoncelliste, oui. Lui. Alors, ça a été vraiment un grand moment que ce concerto. On avait l'impression que les deux solistes chantaient un duo d'opéra. Moi, j'ai eu l'impression d'entendre Suzanne et Figaro dans les noces de Figaro. Donc, d'une part, la fraîcheur lumineuse du violon, cette rondeur chaleureuse de l'alto, les deux sonorités s'accordant parfaitement. Donc, c'était très beau, en particulier l'Andantino Grazioso, qui, alors, là, véhiculait une émotion d'une profondeur incroyable, avec une cadence, mais pour laquelle il est difficile de retenir ses larmes. Hein, c'était d'une beauté incroyable, avec un vivace conclusif qui célèbre un peu la joie retrouvée. Et là encore, à la manière d'un final d'opéra. Ben, c'est très souvent le cas chez Mozart. Hein.
Et oui.
Mozart fait de l'opéra dans sa musique instrumentale. Oui. Hein. Et donc c'était le cas là. Vraiment un très très beau moment. Alors ils ont même donné un bis. Et ce bis, c'était un bis de Béla Bartók. Une des mélodies populaires de Béla Bartók qu'ils ont donné pour conclure leur prestation. Ensuite, en seconde partie, il y avait donc la troisième symphonie en fa majeur de Johannes Brahms, symphonie qui avait été qualifiée par son chef créateur Hans Richter d'héroïque. Alors c'était en parallèle avec la troisième de Beethoven, évidemment, puisque Brahms était un admirateur de Beethoven, un point incroyable. Et donc, c'est un peu dans ce sens que Nathalie Stutzmann a dirigé cette œuvre avec une irrésistible énergie dès les premiers accords, avec dans l'andante une sorte de dialogue entre ombre et lumière, et puis dans le troisième mouvement, alors le plus célèbre évidemment des mouvements de cette symphonie, ce fameux Poco Allegretto qui a inspiré d'une part Frank Sinatra avec sa chanson Take My Love, et puis surtout la musique du film Aimez-vous Brahms de Litvak. Hein. Donc on retrouve...
Après le livre de Françoise Sagan.
Ah oui, voilà, d'après Françoise Sagan, qui avait choisi d'ailleurs le nom de Brahms, et elle avait dit, ça avait surpris tout le monde, « J'ai choisi un compositeur qui n'est pas trop connu
oui. »,
avait-elle dit, bon, si l'on veut. Très beau moment là aussi, que ce mouvement, et puis on a retrouvé le côté conquérant et héroïque de l'Allegro, avec cette force d'un combat que la chef donnait à ce mouvement. Et puis enfin, le concert donc s'est refermé sur une ouverture, l'ouverture de Tannhäuser, donc, qu'elle a eu le temps d'entraîner récemment, de travailler, avec un sens des crescendo, des nuances, et alors une apothéose flamboyante pour l'accord final. Ça a eu un succès extraordinaire, vraiment un grand enthousiasme s'est manifesté de la part du public. Donc, elle a abondamment remercié, elle est allée chercher, elle s'est déplacée sur tout le plateau pour aller serrer la main des principaux solistes,
des
pupitres de l'orchestre qu'elle a apparemment beaucoup apprécié, et la réciproque était vraie.
Concert et programme qui a été redonné, je crois que c'était le lendemain, à la Philharmonie de Paris.
Exactement.
Par les mêmes protagonistes, avec Nathalie Stutzmann oui. à la baguette. Eh bien, nous allons reprendre une petite rasade de la 3e symphonie de Brahms dans une version de l'Orchestre National du Capitole enregistrée il y a quelques années à la Halle aux Grains, et c'est le début de son fameux 3e mouvement Poco Allegretto. Le 3e mouvement Poco Allegretto de la 3e symphonie de Brahms dans une version de l'Orchestre National du Capitole à la Halle aux Grains, dirigé par le chef espagnol Juanjo Mena. Le prochain rendez-vous avec la Phalange toulousaine est programmé samedi 10 février. Nous allons vous le présenter un peu plus tard dans cette émission, puisqu'il nous reste encore un concert sur lequel revenir dans ce retour arrière. Concert qui nous ramène à l'Opéra National du Capitole une nouvelle fois, où samedi dernier se produisaient les Sacboutiers, l'ensemble de cuivres anciens de Toulouse, qui donnait son programme El Villano, Serge.
Oui, alors un programme très particulier, très original. On connaît la créativité des musiciens des Sacboutiers qui associent souvent la musique ancienne, qui est leur domaine évidemment de prédilection, à d'autres univers artistiques, la musique contemporaine, la danse, le jazz, la littérature, le monde de la marionnette. Et là, ils avaient décidé de convier l'énergie du flamenco pour leurs prestations. Et donc, il y avait d'une part les musiciens habituels des sacs-boutiers, avec Daniel Lassalle à la sacs-boute, Jean-Pierre Cagnac au cornet à bouquin, Hélène Médouce au violon, les percussions de Florent Tisser, qui est vraiment un grand percussionniste, et ils avaient invité l'accordéoniste Grégory Daltin et le guitariste Benoît Albert, qui s'était joint à eux. Et ensuite, il y avait deux voix, à tous les sens du terme, d'une part le ténor espagnol Victor Sordo, un compagnon de route des sacs-boutiers, et la grande Sabrina Romero, qui est à la fois danseuse, chanteuse et percussionniste, l'un des grands noms du flamenco moderne. Et ça a été un festival incroyable, à la fois de pièces de la Renaissance et de pièces flamencas, donc de danse, de percussion avec les pieds, évidemment, puisque elle alterne le chant, la percussion
et le flamenco.
Et le flamenco, ça a été vraiment un vrai festival incroyable, avec l'alternance des époques et des styles, avec une imagination sans limite, et puis un sens aigu de la transition. Il n'y avait pas de rupture. On passait d'une pièce d'Henri Schütz à un flamenco, mais ça paraissait tout naturel, parce que c'était joué de manière très homogène. Alors, il y avait même deux œuvres des deux musiciens invités, une pièce pour guitare de Benoît Albert et une autre pièce pour accordéon de Grégory Daltin. Et donc, on a eu droit à de beaux moments, en particulier un duo entre la belle voix de Victor Sardo et le cornet à bouquin de Jean-Pierre Cagnac. C'était des vocalises incroyables. On avait l'impression que c'était une compétition entre les deux. Et puis, les interventions de la sacs-boute. Bon, Daniel Lassalle joue avec une vélocité incroyable de la sacs-boute. Et donc, Sabrina Romero a effectivement participé à un duo incroyable avec le percussionniste. Et tous les deux, c'était d'un synchronisme, d'une précision, d'une cohésion incroyable entre à la fois les impulsions du percussionniste et la pratique du fameux zapateado de la danseuse. Une grande énergie qui se dégageait de ça. L'accueil a été enthousiaste de la part du public, de la salle. Ils ont dû jouer deux bis, reprendre deux morceaux de leur programme pour calmer un peu l'enthousiasme du public.
Oui, maintenant, il faut calmer l'enthousiasme du public à l'Opéra National du Capitole. Ah, vous rendez compte, on en est rendu. Hein.
Ah oui.
Et donc, il y avait des œuvres de Claudio Monteverdi au programme de ce concert El Villano, notamment Si Dolce è il Tormento, que nous écoutons maintenant dans une version des sacs-boutiers. Les sacs-boutiers, c'est Benoît Albert à la guitare, Grégory Daltin à l'accordéon, Jean-Pierre Cagnac au cornet à bouquin et bien sûr Daniel Lassalle à la sacs-boute.
Thank you.
Si dolce è il tormento, si doux est le tourment, pièce composée par Claudio Monteverdi et interprétée ici par les Sacboutiers, soit donc Benoît Albert, Grégory Daltin, Jean-Pierre Canillac et Daniel Lassalle. On termine avec eux cette longue et très dense première partie d'émission. Nous faisons l'habituelle petite pause avant de revenir à l'antenne en compagnie de Serge Ozy et Robert Pénavert pour la rubrique Agenda, qui va être plus modeste. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
Et nous revoici avec Serge Ozy et Robert Pénavert pour l'agenda de Mélomanie, qui est donc moins fourni cette semaine. Un concert de l'Orchestre National du Capitole y est tout de même programmé dans le cadre du cycle Happy Hour. C'est le samedi 10 février à 18h à la Halle aux Grains et c'est un happy hour avec les percussions, Serge.
Oui, en effet, la grande famille des percussions, puisque il y aura une foule de percussionnistes cet après-midi-là, donc à 18h, hein, le 10 février, et avec des œuvres, alors des transcriptions et des œuvres originales pour percussion. Comme transcription, il y aura notamment la deuxième suite de Daphnis et Chloé de Ravel, c'est un arrangement de Pierre-Oliver Schmitt, et également la Danson numéro 2 d'Arturo Marquez, qui est dans l'arrangement du même musicien, et puis des pièces, alors j'avoue que de compositeurs que je ne connaissais pas, Jason Troiting, que je découvre, bon, Phil Glass, lui, on connaît bien, avec une œuvre qui s'appelle Yapura River, et puis John Psattas, avec une œuvre qui s'appelle Kyoto, Elliot Cole, postlude for boat vibraphone, c'est-à-dire donc un postlude pour vibraphone incurvé, et puis une œuvre de Thierry Demey qui date de 2002 qui s'appelle Silence Must Be, donc ça doit être du silence. Et donc l'ensemble de ces percussionnistes sera dirigé par Aurélien Adignac, qui participe souvent au concert de l'Orchestre National du Capitole, et donc il y a quand même 16 participants au cours de ce concert Happy Hour.
Donc il y aura du Ravel. Hein.
Ah oui, cette deuxième suite de Daphnis et Chloé.
Alors je croyais qu'originellement c'était Mamerlois qui était prévu. Oui. Apparemment c'est Daphnis et Chloé. Bon, ça a changé. Aurélien Adignac, je le dis pour ceux qui nous écoutent du côté de Pau, il enseigne les percussions et au conservatoire à rayonnement départemental de Pau. Mais on le voit effectivement très très souvent parmi les percussionnistes de l'Orchestre National du Capitole. Bon bah écoutez, moi j'ai un extrait de Mamerlois en mode ensemble de percussions à vous faire écouter. C'est du Ravel et c'est le fameux final, l'apothéose, plus connu sous le titre Le Jardin féerique. Thank you. Le Jardin féerique, cinquième et dernière pièce de Mamerlois de Maurice Ravel, ici dans une version pour percussion de l'ensemble des claviers de Lyon, mais ce sont donc les percussions de l'Orchestre National du Capitole qui sont en concert samedi à 18h à la Halograin dans le cadre du cycle Happy Hour. Et puis second rendez-vous à noter sur vos agendas, le prochain concert de la saison des Arts Renaissants, il a lieu mardi 13 février à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines, où est attendue une fratrie de musiciens, le trio Antaille, bien connu et très apprécié dans le petit monde des musiques baroques et anciennes, Serge.
Ah oui, absolument. Mais il faut dire qu'ils sont issus d'une famille d'artistes, puisque les trois enfants sont les fils du peintre Simon Antaille, qui est un peintre célèbre. Alors, chacun d'entre eux, des trois, a choisi un instrument différent. Donc, Marc Antaille est le flûtiste, il a suivi l'enseignement de Bartolt Kuyken. Et puis, Pierre Antaille est le claveciniste. Et puis, Jérôme Antaille joue de la viole de gambe, qu'il a étudié auprès de Wilhelm Kuyken aussi. Là aussi, les frères Kuyken, c'est aussi une autre dynastie.
Il y a beaucoup de fratries de musiciens
absolument.
Qui c'est parfois forment des quatuors, des trios. Et les Antailles en sont un exemple parmi d'autres.
Ah oui, mais puis ce sont des musiciens qui ont collaboré ou qui collaborent avec les grands ensembles comme la Petite Bande, la Grande Écurie et la Chambre du Roi, à l'époque de Jean-Claude Malgoire, Philippe Hervec, Jordi Savall, René Jacobs.
Tous les grands de la musique baroque et ancienne.
Non, ce sont vraiment de très grands musiciens et on est vraiment très heureux de les avoir tous les trois pour un programme qui sera donné donc le 13 février, qui comprend des œuvres de François Couperin, c'est un extrait des Concerts Royaux, de Jean-Marie Leclerc, avec une sonate pour flûte et basse continue, de Marin Marais, une suite en ré mineur pour viol de gambe et basse continue, Johann Sebastian Bach avec un trio en sol majeur et une sonate pour flûte et clavecin, et Jean-Philippe Rameau avec La Timide, La Marais, qui sont deux pièces extraites du livre des pièces de clavecin en concert. Donc, un beau programme.
Très, très beau programme.
Ouais. Ah oui, oui, ouais. Très beau programme à Saint-Pierre-des-Cuisines, l'endroit idéal pour ce genre de réunion instrumentale.
Voici le trio Antaille en action dans une interprétation du troisième mouvement Sarabande de la sonate pour flûte en sol majeur de Jean-Marie Leclerc. Le troisième mouvement Sarabande de la sonate pour flûte en sol majeur de Jean-Marie Leclerc dans une version du trio Antaille, qui est donc en concert mardi 13 février à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines à l'invitation de la saison des Arts Renaissants. Réservation et billetterie en ligne sur le site www.art-renaissant.fr. pour le concert Happy Hour avec les percussions de l'Orchestre National du Capitole, ce samedi 10 février à 18h à la Halle au Grain, où vous allez pouvoir entendre entre autres des pièces de Maurice Ravel, Daphnis et Chloé en version percussion. Je vous invite à acheter et réserver vos places sur le site www.onct.toulouse.fr. Tous mes remerciements à mes amis Serge Chauzy et Robert Pénavert pour leur assistance précieuse et éclairée tout au long de cette émission que j'ai toujours autant de plaisir à animer avec eux. Merci également à Christophe Aubry qui a réalisé ce numéro. Podcast disponible et téléchargeable comme d'habitude dès aujourd'hui sur le site web de Radio Présence. Et merci enfin à nos auditeurs, aux nouveaux et aux fidèles de Mélomanie. Très bonne semaine musicale à tous. À bientôt.